Comment?
C'est vrai qu'il faudrait faire le cours ce soir, c'était pas encore sûr la semaine dernière. Ça s'est décidé la semaine dernière. Alors là, donc ici je remets les quatre étapes du petit disque, les deux petits disques troués qui bougent et dont le trou occupe un tiers. Le diamètre du trou, c'est un tiers du diamètre du grand disque. Voilà, ici ça bouge. Donc ça, c'est un truc que j'ai montré, qui est fabricable en plastique. Je n'ai pas ramené les morceaux de plastique. Ce premier schématisme que j'utilise, la superposition de la couleur verte et de la couleur rouge, c'est-à-dire la superposition des deux disques, parce que ça donne une zone bleue. Qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle la conjonction logique quand c'est des diagrammes de Venn. Et justement, ça, ce ne sont pas des diagrammes de Venn, ce sont des disques dessinés dans une figure. Ça, ce sont des figures de géométrie. Donc, il y a des disques en plastique, c'est, on va dire, c'est le modèle physique. Parle plus parce que justement ce qui nous intéresse c'est pas ce type d'objet que nous avons dans notre comme dit Kant, que nous avons dans notre intuition grâce à la sensibilité. Je commence avec le dessin et des dessins c'est peut-être pas à conceptualiser comme des objets c'est plutôt à lire. C'est pas tout à fait des lettres, des caractères d'écriture. C'est ce que Freud appelle des Enzyverzungen. C'est ce que l'enfant prélève sur le corps. Des ondes pour s'identifier. C'est ce que les mains sont prélevées sur le personnage du. De Hitler avec la mèche et la moustache. C'est ce que Chaplin a extrêmement bien rendu avec juste une petite. Avec la, il avait déjà la moustache, il a enlevé le chapeau long, il a ses cheveux même. Et ça. Broussaille, et puis il joue le dictateur et on connaît le dictateur. Ça, c'est. Bon. C'est un mode de lisibilité qui n'est pas encore la lecture d'une écriture constituée. Moi, je le tiens, comme le dit le roi Rouen et comme le découvre Lacan au séminaire, dans la troisième leçon du séminaire d'identification, qu'il faut savoir lire avant de pouvoir, même pour un groupe, une tribu, un peuple, pour inventer une écriture. Contrairement à notre idée un peu simple et naïve, il faudrait savoir déjà écrire pour savoir lire, pour apprendre à lire avec quelque chose qu'il faudrait avoir à lire. Ben, il y a plein de choses à lire. Ces choses à lire, évidemment, sont des trucs. Et ça n'existe pas chez. C'est pas animal. L'animal, il se contente de parler. Il tape. Avec des postures, avec des. Des déjections, des cris, tout ça, tout ce que Kegwa a exploré dans le mythe des hommes, le projet Kegwa. Le mimétisme animal, je reprends Deleuze en termes de perception. Et lui, justement, il n'arrive pas à faire la séparation de son concept entre nature et... Et on va faire comme des choses entre nature et culture. Il y a nature, culture et société. Il faut qu'il y ait un lien social pour qu'il y ait une écriture constituée comme système d'écriture. Il faut être plusieurs. C'est pour ça que le nœud borromien, les nœuds de Lacan sont prêts à devenir une écriture. S'il existe un lien social, un discours, où on se sert de cette écriture et on voit, on la pratique, ce discours va être destiné cette ébauche d'écriture, il l'a destiné au discours analytique de Freud, qu'il a cherché à fonder. Mais il n'est pas fou, Lacan, il n'a pas une écriture à lui tout seul. Alors il y a des gens qui disent que mieux une écriture, ils vont un peu vite. Il faudrait déjà qu'il y ait un lien social un peu plus constitué que celui qu'on a connu au temps de Freud et au temps de Lacan. Ce qui manque, c'est là où Freud invente la psychanalyse, Lacan fonde la psychanalyse et œuvre à faire exister ce lien social, mais finalement, il retire le tapis comme Freud. Freud a fait du Béat, il fait la fondation du champ freudien avec sa fille, comme Anna Freud était la présidente d'honneur de l'IPA à New York. Voilà, les filles servent à cimenter l'association internationale comme une pyramide. Lacan, il a dit explicitement dans un texte qui s'appelle L'étourdi, il dispose de la question. Pourquoi ne s'est-on pas occupé de ces questions de structure qui vont nous occuper ici, avec la répétition freudienne? Pourquoi on ne s'en est pas occupé avant nous, dit Lacan? Ben, il dit parce que c'est à cause de l'Eucharistie et de l'homosexualité grecque et arabe. C'est-à-dire que c'est des pratiques, des orifices du corps. Et ces orifices sont tamponnés, ça fonde les aiguilles. Jusqu'à la fin des temps. Je ne parle pas d'universalité, mais jusqu'à la fin des temps. Bon. Insubmersibles, les aiguilles. Donc, que ce soit le Vatican, la mosquée, et puis la psychanalyse. Avec Freud, c'est l'orifice, c'est la fille, pour le père. Parce que, il y a un truc dans la psychanalyse, c'est que la prohibition de l'inceste, elle est prise en compte. On admet dans l'histoire réelle. La prohibition de l'inceste existe. La fille est interdite. Pour le père, comme le père interdit pour la fille. Donc voilà, Lacan qui a beaucoup cogité là-dessus. Comment ces gens peuvent être aussi nuls et persister autant? Voilà la réponse. C'est que Freud a laissé derrière lui une aiguille qui va surnager jusqu'à la fin des temps, qui représente dans le monde un des pôles de la psychanalyse. Et puis Lacan, il a fait la même chose avec la fondation du champ freudien et sa fille. Les autres, ce sont des comiques. Donc, on se le dit. Nous, on a fait même une petite association qui s'appelle Topologie en Extension. On n'a pas du tout l'intention de représenter la psychanalyse au monde. Il faut être un peu. Mais si le monde avait une structure de cross-cap, c'est-à-dire un truc comme ça, de plan collectif, vous voyez, ben, l'IPA, c'est un de ces deux points, et la fondation du champ freudien, c'est l'autre. C'est les deux. C'est ces deux points qui n'ont aucune importance structurelle pour le plan collectif. Ces deux points n'existent. On dessine ces deux points uniquement pour pouvoir faire rentrer le plan projectif dans l'espace 3. Cette ligne, on appelle la ligne d'immersion, c'est une ligne comme ça où deux plans se croisent. Vous voyez, deux plans se croise ici. Voilà. Donc vous avez cette ligne en dimension 4, elle est inutile, elle n'existe pas. Cette ligne-là. Et ces deux points non plus. Dans la structure, ce qui est par contre ce qui existe dans le plan projectif, c'est cette coupure qui réoriente le plan projectif. cette coupure bleue, qui est la réfraction d'une bande de Möbius, elle, elle est structurellement définie même en dimension 4. Donc, moi, je fonde rien, je représente rien, c'est pas de la représentation, ça, c'est une nécessité de structure. Moi, je vous parle de ces nécessités de structure. On va faire la logique et les mathématiques pour même donner une formulation dogmatique à ces choses, puisque la psychanalyse inventée par Freud, elle est hyper aussi dogmatique, puisqu'il s'agit d'une pratique de la parole. Lacan, il a compris ça en écoutant Gogel, qui dédogmatisait Hegel, il s'est aperçu que parler dédogmatise ce qui est coulé dans le béton du fait d'être écrit. Gogel, il n'aime pas beaucoup les mathématiques parce que lui, il citait. C'est un grand dédogmatiseur. Il raconte Hegel en français. Ça a été écrit en allemand. Il le raconte comme ça, en parlant. Ensuite, il a fait des livres. J'en ai là, c'est une des introductions qu'il a faites au système du savoir absolu, qui s'appelle Le concept, le temps et le discours. C'est absolument magnifique. Il faut lire ça à petite dose parce que c'est très serré. Il faut se mettre à gratter justement sur un papier. C'est ça la fonction de l'écriture. C'est la chose que quand vous faites vos comptes à la fin du mois ou au début du mois, vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez comme argent dans la poche, dans votre compte en banque pour pouvoir le dépenser. Vous écrivez sur des bouts de papier comme ça, sur un coin de table, dans la cuisine, au bureau, au café. Vous écrivez, vous gribouillez des trucs, et quand vous avez fait ces petits calculs, vous jetez le papier à la poubelle, mais vous savez où vous en êtes. C'est une fonction de l'écriture qui est du gribouillage. Mais ça va jusqu'au résultat mathématique. Parce qu'il n'y a pas de raison, vous voyez, dans la mesure où Freud, lui, il a laissé peu de choses parler, il a écrit 25 volumes. Donc c'était très dogmatisable, et ça a été dogmatisé tout de suite. Donc dans ce fameux IPA, ce sont les docteurs du dogme. C'est la pyramide de New York. Et ça se répand dans le monde. Alors Lacan, il a voulu contrer ça parce qu'il a voulu dédogmatiser Freud. Il a parlé pendant 27 ans. Donc la différence entre la psychanalyse de Freud et la psychanalyse de Lacan, c'est assez important pour chacun de nous parce que souvent on se pose la question. Moi, je l'ai rencontré une fois dans un colloque, là, pas loin d'ici, avec Paul Polytechnique, dans le collège international. Il y a une dame qui faisait remarquer, elle disait, mais quand j'entends parler des Freudiens, j'ai parlé des Freudiens, des gens de l'IPA, ça. La psychanalyse et Lacan, nous, c'est pas du tout pareil. On n'en parle pas pareil, c'est pas du tout la même chose, on n'a pas du tout la même pratique. Moi, je lui dis, attention, hein, parce que là, en ce moment, ça, depuis que Lacan a disparu, ça a tendance, comme du temps de Freud, à s'effacer, l'histoire éthique, et ça ressemble beaucoup, que ce soit les gens de l'IPA ou les gens de New York, les héritiers, ceux qui se prétendent être héritiers de Freud, ou bien ceux qui se prétendent être héritiers de Lacan, ça se ressemble beaucoup. Par contre, il y a sûrement une différence, mais c'est la même chose. La différence entre Freud et Lacan, c'est que Freud, il a écrit 25 volumes et c'est très dogmatisable. Lacan, il a parlé pendant 27 ans et c'est un vrai emmerdement pour tous ceux qui se bagarrent pour le pouvoir et qui veulent utiliser les séminaires comme prétexte à justifier leur pouvoir. Parce que la parole, c'est impossible à traiter comme l'écrit. La parole, ça, on a beau enregistrer les choses, je sais qu'il y a des gens qui tiennent compte de l'enregistrement. L'enregistrement fait document, sans doute, mais pas de la même manière que l'écrit. De toute façon, on ne sait pas très bien comment s'y prendre avec ce qui passe par les oreilles. C'est beaucoup plus intraitable que ce qui se passe par écrit. C'est pour ça que, vous voyez, la définition du dogmatisme de Don Kojève, c'est ce qui est silencieux, c'est les discours silencieux. Alors, il dit, il y a la révélation. Hein, si vous rencontrez quelqu'un qui a connu cette expérience de la révélation, il va vous dire des trucs pour s'il a tort, s'il essaye de vous convaincre, il vous convaincra jamais, mais... et puis à la fin il vous dira, de toute façon tu ne peux pas comprendre. C'est ça qui est dogmatique, c'est inexplicable par la parole, c'est comme ça, c'est juste dans mon corps. La parole aussi, ça rentre dans le corps. scène de mon crash. Et puis alors, il y a la loi morale, vous savez, c'est que ça vous rappelle Kant. Kant qui disait que les étoiles dans le ciel et puis la loi morale à l'intérieur de lui, c'était l'occasion d'une contemplation. C'est dogmatique. Puis l'expérience de laboratoire, elle est silencieuse, même si les particules font des petits bruits, pas de peur. Ou si vous faites même de l'acoustique, vous êtes censé, c'est comme les neurologues quand ils étudient les neurones, ils ne parlent pas de leurs neurones et ça ne fait pas de bruit. Donc c'est très différent de la psychanalyse et de la neurologie. Les sciences expérimentales, c'est dogmatique parce que c'est silencieux. Si vous n'êtes pas dans le coup, vous ne comprenez rien, et c'est pour ça qu'on se presse d'en faire un usage plutôt religieux pour tout le monde. Ce qui est vraiment dommage, c'est vraiment considérer tout le monde comme des abrutis. C'est un manque de goût. Et puis, les mathématiques. Les mathématiques, c'est une écriture silencieuse. Et alors cet aspect dogmatique, ça a culminé dans le 19e siècle quand Frege a voulu faire une idéographie, vous voyez, une idéographie, une manière d'écrire la logique qui accompagne le raisonnement arithmétique pour voir un peu ce qu'il en était de l'idée de Kant. Hein, pourquoi 7 plus 5 égale 12 et, est-ce que c'est un jugement analytique ou est-ce que c'est un jugement synthétique a priori? Donc, le dogmatisme, il a monté, même, ça fait faire des erreurs aux logiciens, cette histoire d'écriture et de parole. Et c'est ça qui est très très bien dans ce que dit Kojève. Au début, il dit voilà, la meilleure introduction d'un livre, c'est son titre. Et il paraîtrait que Descartes aurait même dit que quand on a lu le titre d'un livre de philosophie, si le titre est correct, si l'introduction est le titre de l'ouvrage qui est écrit par l'auteur, si le livre est bien fait, ben on n'a pas besoin, si on connaît la philosophie, on n'a pas besoin de l'ouvrage, on a le titre, on peut très bien constituer tout ce qu'il y a dedans. Alors, Kojève, il dit, d'un point de vue systématique, il a raison. Mais d'un point de vue historique et pédagogique, c'est indéfendable. C'est là qu'il rentre dans l'explication de pourquoi il a fait trois introductions que j'aime au système du savoir de Hegel. Parce qu'il dit qu'il y a la première étape, c'est de dire, je ne veux pas vous raconter toute sa présentation d'introduction, toute sa mise au jour, il appelle ça ici d'une mise à jour. Mais le premier argument qu'il donne, c'est qu'il dit qu'il y a des degrés d'explicitation, et que plus l'histoire s'avance, il y a un progrès d'explicitation des notions, et donc du coup, ça vaut le coup quand même de lire. Et puis ce qu'il dit, c'est que de toute façon, d'un point de vue pédagogique, pour apprendre, il faut lire quand même ses préfaces. C'est pas seulement ce que là, c'est l'introduction. Il y a le titre, l'introduction et l'ouvrage. Il parle de ça très très bien. Il oublie juste une petite chose qui s'est passée pour Frege et pour tous les logiciens du 19e et du 20e siècle, c'est qu'ils oublient qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire avec une idéographie, avec une mathématique, parce que si on ne parle pas une langue, c'est là que ça va, vous voyez. Ce mot horrible de formalisation, de formalisme, de formaliste, de forme, de formel qui devient formaliste avec des symboles symboliques et formels, la logique moderne, elle devient formaliste, formalisation. Tout ça, c'est un rêve idéal qui est partagé par les partisans comme par les ennemis, par les adversaires de la formalisation. Les uns et les autres, ils ont cru à un langage total. Un langage total est écrit. Hyper dogmatique. Et aujourd'hui, c'est le rôle que peut jouer, par exemple, les machines qui écrivent, mais qui n'écrivent pas parce qu'elles ne savent pas lire. Alors, on essaye de vous donner l'impression qu'elles savent lire, on fait des petites astuces, des petits trucs ad hoc. Même déjà, le théorème de Gödel suffit à dire que déjà, tous les théorèmes d'arithmétique, ils seront jamais listés. On ne pourra jamais les lister. C'est incomplet. Ce sera toujours incomplet. C'est peut-être fini, mais c'est un nombre tellement grand, de toute façon, il n'y a aucune raison de lui fixer une bande supérieure. C'est bien quelque chose qui paraît. Dans le domaine des nombres entiers finis, c'est un truc qui ne s'arrête pas, donc il y a l'infini qu'on appelle des noms. Cette incomplétude, c'est pas gênant du tout. Nous rentrons dans le monde de la science indéterminée, c'est même pas d'indéterminée, c'est l'incomplétude. Et bien c'est comme ce que découvre la psychanalyse. Freud vraiment est un précurseur là-dedans, c'est pas pour faire son apologie, mais selon Freud, pour Dieu, il ne comprenait pas toujours très bien tout ce qu'il faisait. Et Lacan, il se présente comme un strict lecteur de Freud. Il ne l'a même pas connu, il n'a pas parlé avec lui. Quand Freud est passé à Paris, il n'est pas allé à la Réunion. Bon, donc ça, c'est pas. Ce que Lacan fait, c'est pas passer par le clin d'œil, le fait de serrer la pince, ou d'échanger les paroles. Lui, il dit je suis lecteur de Freud. Je lis Freud et je suis freudien. Et je pratique une critique au sens de la critique transcendantale, du processus critique, du commentaire critique, pour fonder Freud, pour voir où ça dérape. Si ça tient pas le coup, ça va se casser la gueule, et ce sera pas fondé. Si ça tient le coup, si j'arrive à faire ça jusqu'à ma mort, il a failli être arrêté en chemin, hein. Il y a des gens qui ont essayé de l'arrêter. Il y a l'histoire de l'exclusion de l'IPA, mais il y a aussi le référé à la fin de sa vie. Il y a des psychanalystes d'Oltoyens qui ont voulu le faire passer devant les juges. Bon, son avocat du mal a bien défendu. Et puis ses aides de camp ont bien bagarré pour faire voter la dissolution, finalement, et tout est rentré dans l'ordre. Et il est mort psychanalyste en continuant jusqu'à la mort à commenter Freud, et ça s'est pas cassé la gueule. C'est comme ça que c'est fondé. Donc vous voyez, il y a la fondation des églises par les filles, et la fondation du discours par l'exercice du commentaire parlé pour Lacan. Puis Lacan, en parlant la psychanalyse, pour la dénogmatiser parce qu'elle était écrite par Freud, eh bien Lacan, il se permet le luxe de pousser les choses du côté de la dogmatisation plus loin que Freud et les autres, jusqu'aux mathématiques. Donc Lacan, il tire la psychanalyse des deux côtés. Du côté de la parole et du côté des écritures mathématiques, logiques et mathématiques. Mais c'est pas la peine de parler de formalisation, il suffit de dire, bon, les logiciens du 19e et encore au 20e, ils étaient un peu timides. Regardez Lukasiewicz qui a inventé ce mot de formalisation, de formalisme. Hein, quand il dit au début de son ouvrage sur Aristote, la logique d'Aristote était formelle et avec la logique moderne, elle est devenue symbolique. Et formelle et symbolique, c'est plus une logique formelle, c'est une logique formalisée. Les adversaires de cette formalisation, ils voudraient sauver leur religion. Ce n'est pas le sujet, parce que le sujet n'est pas menacé par cette mathématique. Puisqu'il faut être justement sujet pour faire des mathématiques. Et comme disons que c'est leur affaire de croyance, ils se trouvent dérangés par cet idéal auquel ils croient finalement, puisqu'ils croient qu'on va arriver à faire un langage total, écrit, hyper dogmatique. Donc ils sont contre. Ils sont contre. Ils veulent bien qu'on se tourne vers les petits enfants, les plantes, les animaux. Vous voyez, c'est la sensibilité là. Très anglo-saxonne, parce qu'il y a des. Et c'est pas seulement les anglo-saxons, parce qu'eux, ils sont aussi tenus les Anglais par la machine. Donc c'est assez compliqué pour se retrouver là-dedans, mais les Anglais, ils sont depuis Newton, ils sont mécanistes seulement. Ils ont une façon d'être anglais qui est inimitable. Ils ont un truc qui s'appelle liberty et un truc qui s'appelle freedom, par exemple. Alors les Américains, même bien. Les Hollandais qui ont survolé l'Angleterre pour aller jusqu'à New York, ils comprennent pas non plus. Les Français, ils comprennent rien du tout. On peut pas devenir anglais si on est français, ça. Bon, les idéalistes allemands, ils comprennent pas non plus. Même ils sont contre, ils deviennent nazis ou nihilistes si les Anglais ont raison. Ils disent, si les Anglais ont raison, il faut tout détruire. On a vu ça, c'est là où je pense qu'ils font ça comme ça. Bon, donc tout ça, c'est pour vous dire que il faut arriver à se situer entre parole et écriture dans le langage, que les animaux parlent, mais n'écrivent pas et ne lisent pas. Ça, c'est ce qu'a pas vu de le. Les machines, elles ne lisent pas, elles n'écrivent pas non plus, et elles ne parlent pas. On leur fait produire des processus répétitifs. Strict, c'est-à-dire récurrent. Les langues paraissent être, par exemple, c'est là que s'est arrêté Chomsky, semi-récursives, mais pas récursives. peut pas faire des machines automatiques à traduire, à traduire la langue. Parce que pour la langue, comme pour les mathématiques, comme pour la logique, il faut justement parler une langue pour pouvoir apprendre. C'est pédagogique, c'est ça qui est très proche de ce que dit Kogel, de la nécessité des introductions. Ce qui fait que cette nécessité d'une langue ordinaire, commune, dont il aurait dit vulgaire, vous savez, il a écrit un très beau livre, un très bel ouvrage qui s'appelle De l'éloquence en langue vulgaire, dans lequel il fallait, pour un temps que nous venons avec le métalangage, on y retourne avec les maths, l'informatique et tout ça, et quand même le latin, c'était considéré comme la langue sérieuse, quoi. Même pour l'éloquence. Et donc, Dante, il a été obligé, enfin, il s'est senti obligé de démontrer dans son ouvrage L'éloquence en langue vulgaire que la langue vulgaire, c'est-à-dire la nôtre, nous qui sommes des gens vulgaires, eh bien, moi je pense qu'il faut être vulgaire, hein. Il faut absolument être banal. Vulgaire, ça veut pas dire obscène, hein. Il faut être banal, la langue banale, mais il faut être exceptionnel. C'est ça la difficulté, c'est d'être exceptionnel sans s'y croire, sans se prendre du col. La psychanalyse, c'est quelque chose d'exceptionnel et de banal. C'est quelque chose de banal en même temps qu'exceptionnel. Et c'est pour ça que ça concerne tout le monde, ça peut intéresser tout le monde, mais ça n'intéresse pas ceux qui veulent être seulement exceptionnels. C'est exceptionnel en intéressant tout le monde. Et donc tout le monde ne fait pas de psychanalyse, on n'est pas obligé ça. Donc dans ces catégories de banal et d'exceptionnel, vous avez donc ces machines qui ne lisent pas, et nous lisons, et nous parlons une langue. Et alors il y a juste une petite difficulté logique supplémentaire, qui est ajoutée par Lacan, c'est que c'est du côté de notre corps mammifère, animal, que semble se situer quelque chose qui a trait à la sexuation et à la sexualité. Hein, quelque chose qui est territorial, qui s'appelle la libido. Qu'est-ce que c'est la libido? C'est l'extension du territoire. Les animaux, ils ont des territoires qui sont uniformes, mais ils vont aller déterminer un bord de territoire par leur parole, par leur posture, par leur cri, par leur déjection, par leur couleur. Tout ça pour pratiquer la parade. Et l'exercice sexuel de la reproduction. Nous savons ça aussi. Donc là-bas, il y a une petite difficulté. Il dit, bon, la parole, elle peut ne plus être cette parole de la nature, cette parole des animaux, elle devient la parole. C'est ce qui fait qu'on parle de vérité, de celui qui parle, il y a une loi de la parole. Vous voyez comme quoi la parole comme temps, comme diachronisme, c'est très insuffisant. La parole, c'est aussi la vérité. Dire, c'est dire la vérité. Il y a un impératif de la parole. La parole, ça va aller plus loin que la parade. C'est pour ça qu'il y a une grande difficulté à situer ce phallus, cette fonction phallique, cette fonction imaginaire du phallus symbolique. Mais c'est aussi bien, ce qui est aussi difficile, inversement, c'est de situer la fonction de ce phallus symbolique dans l'imaginaire, ou d'une manière imaginaire. Les deux sont liés. Donc, dans ce schéma, vous avez une difficulté qui consiste à dire que ne vous laissez pas aller à dire, nous dit Lacan dans la première leçon du symptôme, que le sexe n'est pas naturel. Alors, il a beau avoir été filtré, transformé, comme tout ce que la parole et le langage, l'écriture, la lecture, tout ça, le langage va transformer le monde, va créer des nouveaux sillons. Regardez où nous vivons, enfin, ça n'a rien de naturel. Mais pourtant, il y a une chose, par exemple, qui reste, c'est par exemple les arbres avec la chlorophylle. Parce qu'on n'a pas de système industriel, vous voyez, c'est un peu comme la parole, qu'on n'arrive pas à avoir, c'est comme le sexe, c'est peut-être pour ça qu'il y a des écologistes. On n'arrive pas à faire une machine industrielle pour traiter l'oxygène de l'air, pour reproduire l'oxygène à partir du gaz carbonique. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens, je vous dis, comme ça, une petite croyance dans les petits arbres, dans les petits animaux, tout ça, c'est la vie, c'est gentil. Le problème, il est que Lacan dit, ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. Voilà une difficulté. Et ça va nous faire rentrer dans la topologie comme nécessité. en tant que logique. Parce que vous ne pouvez pas vous laisser aller à dire que le sexe, le nôtre, la sexualité, notre libido structuré par des portes, voyez-nous, il y a des portes. Hein, il y a pas, nous ne vivons pas sans portes. Hein, c'est un problème de langage,